हर संत कहे साधु कहे
On reçoit donc ce soir Dilip Subramanian et on va parler des services publics en Inde et de l'histoire de leur évolution et de leur privatisation. Mais Cédric, peut-être on pourrait essayer de cadrer de manière plus générale de quoi on va parler.
Oui, parce que j'imagine que nos éditeurs, un peu comme nous, connaissons assez mal l'Inde, hein, si ce n'est que c'est un pays qui regroupe pratiquement 1 milliard de personnes, donc c'est même peut-être un peu plus, ce qui n'est pas tout à fait rien. Mais peut-être avant donc d'en venir à ces questions de privatisation que tu as étudiées de près, Dilip, dans une thèse que tu as consacrée à la privatisation des services à l'entreprise d'État Indian Telephony Industry. Avant d'en venir à ça, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu quel est le système politique indien de manière un peu générale.
Voilà. Bonsoir. Donc en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité ici parce qu'en effet, Cédric, il y a beaucoup de clichés qui circulent sur l'Inde qui sont vrais, mais ça reste également un pays qui n'est pas vraiment très, très connu en France. Même parmi les chercheurs qui savent plus sur l'économie brésilienne et l'économie mexicaine, par exemple, que l'économie indienne. Donc voilà. Pour parler de la situation actuelle aujourd'hui, donc il faut peut-être remonter un peu en arrière. Donc je vais très brièvement donner quelques dates, quelques éléments de cadrage. Donc 1947, première date. Donc les Anglais quittent l'Inde. L'Inde devient indépendante. Ce départ s'est fait quand même dans des conditions très traumatiques parce qu'il y a eu la partition. Donc il y a eu presque 1 million de personnes qui sont mortes. Hindous et musulmans suite de la partition de l'Inde en deux pays, donc l'Inde et le Pakistan. Voilà. Donc c'est un premier moment clé. Même si les Anglais sont partis donc de leur libre volonté, l'indépendance a été accouchée quelque part dans le sang et c'était quelque chose qui était hautement traumatisante. Donc à cette époque, donc l'Inde était un pays tous les clichés étaient vrais, très faible niveau de espérance de vie, une base industrielle donc peu développée, une pauvreté galopante. Un problème de surpopulation. Et donc, du coup, les dirigeants indiens mettent en place un système qui est assez innovateur, une économie mixte, voilà, inspirée, entre autres, du système soviétique, parce que le système soviétique avait fait, en tout cas, dans les années 40 et les années 50, ses preuves, une industrialisation rapide qui a permis donc à l'Union soviétique de passer d'un pays agraire à un pays industriel, une puissance industrielle, voilà, et qui a également permis de reculer la pauvreté. Donc c'était un peu le modèle qui avait été conçu, donc un système d'économie mixte, où l'État intervient très fortement à travers un système de planification quinquennale, où le secteur privé joue un rôle, mais c'est plutôt un rôle subordonné à l'État. Et le secteur privé reste important et était déjà relativement important, qui était chargé à s'occuper de tous les biens de consommation. Mais par contre, le projet de développement qui consistait à créer une société moderne a été confié au secteur public, qui devait construire toute l'infrastructure, l'industrie lourde, les biens les biens d'équipement, voilà. Et donc cette tâche de créer une Inde industrielle moderne était confiée au secteur public qui a occupé la sphère dominante de l'économie. Et cette situation a continué jusqu'aux années 90, malgré des problèmes qui se sont commencés à faire jour depuis le début des années 80, des problèmes de sous-utilisation de capacités industrielles, des problèmes de goulot d'étranglement. Et surtout, ce qu'on avait oublié, c'était d'accorder suffisamment d'importance au système agraire. Et parce que tout l'accent avait été mis sur l'industrie. Donc du coup, la pauvreté qui était faire reculer les pauvretés et les inégalités sociales et économiques qui étaient le but du projet de construire une Inde moderne a été quelque part, n'a pas été réalisé. Donc du coup, Et par ailleurs, donc il y avait des pesanteurs, il y avait des lourdeurs dans le système économique qui a fait que on a parlé pendant très longtemps d'un taux de croissance hindou, c'est-à-dire l'Inde, alors que les pays de l'Asie de l'Est, les célèbres tigres asiatiques affichaient des croissances entre 10 et 12%. L'Inde, la croissance économique de l'Inde vivotait entre 3 et 5%. Voilà. Donc tout ça a fait qu'il y avait un mouvement, en tout cas il y avait une réflexion sur la nécessité donc de réformer en profondeur les systèmes économiques. Et il faut dire que cette réflexion n'a pas du tout été donc quelque part à prédater le mouvement néolibéral à la fois en Angleterre et aux États-Unis. Parce que déjà dès les années 70, il y a les bureaucrates indiens avaient déjà commencé à réfléchir sur la nécessité donc de réformer le secteur public et l'ensemble de l'économie, donner plus de liberté aux entrepreneurs indiens. Et la stratégie qui avait été conçue à cette époque, c'était plus, je dirais, une stratégie pro-business, c'est-à-dire de faciliter ce qui était déjà sur place par rapport à une stratégie, disons, pro-marché, qui consiste à favoriser à la fois les nouveaux entrants et les consommateurs. Donc la stratégie était surtout de s'appuyer sur le secteur privé indien, qui avait été donc jusqu'à cette époque tenu à l'écart. Il y avait aussi pendant très longtemps une rhétorique anti-capitaliste très à gauche, mais dans la réalité, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est pour le système économique. Je reviendrai par la suite sur les réformes. En ce qui concerne le système politique, donc, il y avait le parti du Congrès qui a hérité le pouvoir en 1947, donc c'était le parti de Nehru, le premier ministre de l'Inde, et le père, en tout cas, du modèle industriel qui avait été mis en place, donc qui donnait une priorité donc, à l'industrie lourde, à créer, donc, à bâtir cette infrastructure. Et à côté de ça, donc, le parti du Congrès qui a détenu le pouvoir presque de façon continue jusqu'aux années 60-75, voilà, jusqu'aux années 75, parce qu'après Nehru est arrivée donc sa fille, Indira Gandhi. Une autre date importante, c'est 1975, parce qu'à cette époque, l'Inde jusqu'en 1974 a été donc une démocratie entre guillemets relativement exemplaire, où il y avait une presse importante, un système juridique légal, très libre par rapport aux autres pays asiatiques. Mais en 1975, suite à des difficultés économiques assez importantes, donc Indira Gandhi, donc la fille de Nehru, décide d'imposer un état d'urgence où toutes les libertés démocratiques sont suspendues, les opposants politiques sont mis en prison. Il y a eu également une répression envers la classe ouvrière organisée envers les syndicats. Et donc, de juillet 1975 au mars 1977, donc pendant 18 mois, il y avait une situation d'état d'urgence où toutes les libertés démocratiques avaient été abrogées. Voilà. En 1977, les élections sont déclarées. Et là, la grande surprise de tout le monde, Indira Gandhi est battue. Et il y a une coalition très hétéroclite, à la fois avec des factions assez réactionnaire des classes dirigeantes indiennes qui arrivent au pouvoir. Mais c'est une coalition donc assez fragile. Et donc, au bout de 2 ans, Indira Gandhi revient au pouvoir en 1980. Et c'est le départ, quelque part, de ce changement qui commence sur le plan économique, qui commence à se faire jour à cette époque-là. Donc, j'espère que je suis assez clair sur ce point-là. Un autre élément important à souligner, c'est le politique, donc... Vis-à-vis du monde, c'était donc une politique plutôt sur les relations externes était dirigée par un système de neutralité, donc qui était appelé donc le système de non-alignement, donc c'est-à-dire une indépendance à l'égard de deux grandes puissances, les États-Unis et la Russie et l'Union soviétique. Mais c'était une politique de neutralité qui était quand même à partir des années 60-65, à la suite d'une deuxième guerre contre le Pakistan, elle était surtout très battue en brèche parce que l'Inde commence à s'appuyer de plus en plus sur l'Union soviétique pour l'aide, surtout l'aide militaire. Et en contrepartie de cette aide militaire, et aussi l'Union soviétique était un très important pourvoyeur de pétrole parce que l'Inde n'avait pas, donc avait très peu d'énergie pétrolière. Donc en contrepartie de cette aide militaire et de pétrole, l'Inde fournissait énormément de biens industriels à l'Union soviétique, des biens de consommation. Donc, à Moscou, par exemple, on trouvait de la dentifrice indienne, des produits de savon. Donc, voilà. Et donc, c'était très courant pendant... Donc, à partir... voilà, ça a dû commencer au début des années 70, mais souvent dans les magasins russes, soviétiques à cette époque, on trouvait donc des produits indiens, des produits de consommation fabriquée en Inde, voilà. Donc arrive, voilà. Donc peut-être je vais arrêter là.
Non, vas-y, continue.
Donc à partir de 1980, donc les face à des difficultés économiques, donc voilà, donc comme j'ai expliqué, donc le premier grand problème c'est le montée de la pauvreté. Donc la pauvreté continue à grandir. Il y avait également le système donc disons de planification mis en place avait été peu probant, voilà. Donc du coup à partir du début des années de l'année 80, on commence à réfléchir à tout un système de réformes, et les tournants libéral commence en 1984-1985, et qui est amorcé donc par le fils d'Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, donc qui arrive au pouvoir à la suite donc de l'assassinat de sa mère en 1981 ou 82, si je ne me trompe pas, voilà. Donc à la suite, donc il reprend le pouvoir. Donc c'était presque une dynastie familiale qui trusse le pouvoir. Le grand-père qui était le premier ministre de l'Inde, donc Nehru, sa fille Indira Gandhi qui était donc le deuxième premier ministre, et son fils Rajiv qui donc prend le pouvoir en 1980. Et lui, avec lui, il y a également un changement non seulement de fond, mais également de forme. C'est-à-dire là, on fait table rase de ce discours de gauche, discours gauchiste, mais de purement de façade, voilà. Et là, on dit très clairement que le secteur public n'a pas tenu ses promesses. On a gaspillé beaucoup d'argent avec le secteur public. Les industries publiques étaient surtout, c'est devenu synonyme de produits de mauvaise qualité et très chers. Et donc là, il y avait un discours qui favorisait vraiment donc les milieux de le milieu business et les milieux des entrepreneurs privés indiens. Voilà. Il faut pas oublier ce détail. Pour les milieux privés, milieux d'industrie privée en Inde, ils ne souhaitaient pas une intégration trop rapide avec l'économie mondiale, parce qu'ils avaient ils craignaient quand même que l'arrivée du capital étranger allait complètement anéantir l'industrie indienne, qui n'était pas du tout productive ni suffisamment concurrentielle. Et le modèle qu'ils prenaient, c'était plutôt un modèle proche de ce qui avait été mis en place, par exemple en Corée du Sud ou au Japon, où l'État intervenait, mais il y avait quand même de façon... où l'industrie était très protégée. Voilà. Les tarifs douaniers étaient très importants en Corée du Sud et au Japon. Même ça, c'est encore le cas aujourd'hui dans certains secteurs au Japon et en Corée du Sud. Donc le modèle qu'ils prenaient, c'était plutôt un modèle où l'État joue un rôle, mais plutôt de garde-frontière, en maintenant des tarifs douaniers assez élevés pour empêcher donc les produits étrangers et le capital étranger d'entrer en Inde et de prendre des parts de marché importantes. Donc voilà. Donc mais par contre, ce qu'ils souhaitaient, c'est de déréglementer et de libérer toute une série d'entraves administratives sur l'outil de production dans l'industrie privée. Par exemple, il y avait tout un système de quotas qui empêchaient les industriels indiens à la fois à importer des choses, à augmenter leur capacité. Donc, ils voulaient, ce qu'ils prenaient, c'était surtout une, disons, de se libérer d'un carcan bureaucratique. Voilà. C'était, et de procédures administratives qui étaient très, très lourdes et qui étaient, bon, à... Donc, le débat est encore ouvert aujourd'hui. Est-ce que qui, mais qui empêchait donc en tout cas les capitaines d'industrie privée en Inde de se développer et de s'agrandir. Mais par contre, ils n'étaient pas du tout pour une intégration rapide avec l'économie mondiale. Donc ça, il faut garder ça en tête. Voilà, il y a une autre chose qui également qu'il faut garder en tête, c'est à partir de 1900, des années 80, il y avait également une politique très sur le plan budgétaire en Inde jusqu'aux années 1980. Le gouvernement indien était assez prudent, donc qui s'endettait très peu. Le taux d'inflation était beaucoup moins élevé que dans les pays de l'Amérique latine, par exemple. L'inflation en Inde n'a jamais dépassé le niveau d'entre 20 et entre 18 et 20 %, donc voilà, et donc parce que la légitimité quelque part des élites indiennes dépendait aussi du suffrage universel, et donc du coup, ça dépendait aussi de pouvoir assurer des vivres donc à bas prix pour les pauvres. Donc ça, c'était, donc il y avait vraiment une tentative de museler l'inflation, de veiller à ce que l'inflation ne grimpe pas trop vite, parce que si l'inflation grimpe très vite, tous les biens de première nécessité allaient augmenter et du coup on allait avoir des problèmes sociaux assez importants. Donc ça, les dirigeants indiens étaient toujours très très conscients de ça, et même aujourd'hui c'est quelque chose qui reste quelque chose de très important donc dans ce système politique. Là.
Alors peut-être pour continuer à dresser le tableau, on pourrait dire deux mots du mouvement ouvrier au sens large. Est-ce qu'il existe, je sais qu'il en existe, comment ça se structure, des syndicats, c'est des choses, c'est structuré, c'est puissant, ça pèse quel poids dans cette société?
Voilà, il y a des syndicats donc relativement puissants jusqu'à une certaine date, mais ces syndicats étaient surtout présents dans ce qu'on appelle le secteur organisé. Donc en Inde, l'économie est divisée donc entre un secteur informel où se trouve donc la plupart de la main-d'œuvre. Il y a presque entre 60 et 65% de la force de travail qui se trouve donc dans le secteur informel, qui n'est pas du tout régi par les lois, qui est régi par aucune loi. Et donc, il y a le secteur organisé où les syndicats sont très puissants. Donc, ce sont des centrales, donc, des fédérations nationales qui sont affiliées à des partis politiques, un peu comme partout dans un système tel qu'on le connaît en France. Donc, il y a, donc, les syndicats les plus puissants sont affiliés donc, au Parti communiste. Donc, il y a deux syndicats qui sont affiliés. Donc, en Inde, il y a deux partis communistes. L'un aujourd'hui, ces clivages n'ont aucun sens, mais en tout cas, à cette époque, était pro-Moscou, et l'autre qui était plutôt pro-Chine. Voilà. Donc, ces deux partis communistes avaient chacun donc, un syndicat, donc, qui était donc, un syndicat important, une confédération nationale. Et à côté de ça, il y avait également donc, le Parti du Congrès qui avait son propre syndicat, et qui, numériquement, était le plus important. Parce que, étant donné que le Parti du Congrès était au pouvoir pendant très longtemps, il y avait aussi un intérêt de s'affilier donc, au syndicat du Parti du Congrès. Et numériquement, ils étaient donc le plus puissant. Et le gouvernement intervenait ouvertement dans les relations professionnelles pour donner un coup de main au syndicat du Parti du Congrès. Donc voilà, l'intervention gouvernementale n'était pas uniquement dans la sphère économique, était également dans la sphère des relations professionnelles, qui était quelque part logique, étant donné que le gouvernement jouait un rôle très important dans tout ce qui concernait le processus de fixation des salaires. Voilà.
तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा
दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहां है आए शराबी मौसम बहकाए रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, et on est toujours avec Dilip Subramanian, qui vient donc de nous faire l'histoire de l'Inde contemporaine en 21 minutes, un exploit, et je crois qu'on se retrouve au début des années 90, Cédric.
Oui, alors tu disais tout à l'heure, comment, à la fin des années 80, l'Inde connaît une rupture au début des années 90. Est-ce que tu pourrais également expliciter globalement quel est le sens de cette rupture, si j'ai bien compris, à la fois politique et économique ?
Voilà, tout à fait. Donc, 1991, donc, date clé dans le trajectoire, dans l'histoire du pays. Le gouvernement est au, donc, l'État indien est au bord de faillite. Il y a un déficit croissant de la balance commerciale, voilà. Et surtout, on a à peine, je crois, il y a dans les banques indiennes, il y avait à peine 2 semaines de devises pour payer, pour pouvoir payer les importations. Donc voilà, le gouvernement décide, un nouveau gouvernement arrive au pouvoir, un gouvernement minoritaire, et qui décide donc d'amorcer le changement et qui met en place toute une série de réformes. Et là, c'est vraiment un vrai tournant parce qu'on quitte donc ce système, donc un régime planifié vers un régime plus libéral. Donc c'est vraiment le tournant qui arrive à la fois dans les actes, parce que jusqu'à maintenant, donc, il y avait souvent le discours, mais les actes ne suivaient pas. Et là, par contre, les mesures sont prises. Et parmi les mesures les plus importantes, c'est donc, toute une série de mesures administratives sont prises pour aider l'industrie privée à se développer. Et surtout, on autorise le capital étranger à s'investir en Inde dans un certain nombre de secteurs, dont le segment de télécommunications. Voilà.
Et alors, juste pour revenir sur ce virage politique et économique, l'Inde était encore un pays sous influence anglaise, j'imagine, non, dans les années 80. Et pourquoi ça n'arrive pas avant, alors que Thatcher est déjà bien implanté et que ses idées sont déjà très, très en vogue en Angleterre ?
C'est une question qui est assez qui est très juste, mais il faut, comme j'ai dit, déjà à partir de 1984, il y a déjà un certain nombre de segments de l'économie indienne qui sont déjà ouverts donc à la concurrence, à, par exemple le monopole de ITI de cette entreprise que j'ai étudiée pour ma thèse, donc Indian Telephone Industries. Le monopole de ITI a déjà été battu en brèche sur un certain nombre de segments de télécommunications, et c'est intéressant de constater qu'en 1984, c'est également le grand déferlement de déréglementation dans le télécommunication dans le monde entier. Donc voilà, il y a aux États-Unis par exemple AT&T, le monopole d'AT&T qui a duré presque un siècle, donc qui a été donc mis fin. En Angleterre, donc il y a British Telecom qui est privatisé, et en Inde, donc on autorise un certain nombre des entreprises privées à entrer donc dans certains segments de la fabrication des équipements de télécommunication. Donc là, on voit une espèce de politique d'émulation, voilà, où les élites indiennes essaient de reprendre des innovations qui ont fait leurs preuves ailleurs, et voilà, dans l'espoir d'avoir les mêmes bénéfices politiques et économiques en Inde. Sachant aussi que le secteur de télécommunication, il y a un parallèle qu'on pourrait faire entre le secteur de télécommunication en Inde et en France avant l'arrivée de Giscard. En France aussi, bon, sans doute, il y a beaucoup des auditeurs qui ne se souviendront pas de ça, mais avant...
Ils ne se souviennent même pas que Giscard a existé. Quoi. Voilà.
Avant 1974, les délais pour obtenir un téléphone en France allaient entre 3 et 5 ans. Voilà. Et les pouvoirs politiques partageaient un peu le sentiment de De Gaulle, comme quoi le téléphone était un gadget pour les femmes. Voilà. Et ce système, il fallait la venue de Giscard et l'injection de quand même des sommes très importantes, parce que je crois qu'il y avait 50 milliards de francs qui avaient été investis sur 5 ans pour que le réseau de télécommunications en France se modernise. Et voilà. Et en Inde également, le secteur de télécommunications est vu comme quelque chose d'un luxe et pas du tout conçu comme un engin de croissance économique. Voilà. Jusqu'aux années 80, une liste d'attentes interminables pour avoir un téléphone. En dehors de la classe politico, disons, bureaucratique. Si on est soit ministre ou fonctionnaire, on a un téléphone assez vite, mais par contre, pour les autres gens, il fallait attendre entre 4 et 5 ans. Voilà. Et en 1983-84, arrive un entrepreneur indien qui avait fait fortune aux États-Unis, qui réussit à convaincre les dirigeants indiens que les télécommunications, loin d'être un luxe, peuvent être un moteur formidable de croissance, et également réduire les inégalités. Donc il y a toute une série de réformes qui se sont mises en place. Et parmi ces réformes, il y a la décision de mettre fin à certains au monopole de cette entreprise ITI sur certains segments. Voilà. Mais je crois que cette question de savoir pourquoi le virage politique en Inde est arrivé en 91 et pas avec Thatcher, ça s'explique aussi par le contexte international, parce qu'en 1980-81, parce qu'il y avait quand même toute une réflexion dans le milieu politique et le milieu bureaucratique, mais qui prédatait déjà l'arrivée de Thatcher au pouvoir, mais ça a été retardé par le deuxième choc pétrolier de 1981. Donc, alors sinon, je crois qu'il y aurait eu déjà une première train de mesures plus importante qui aurait peut-être vu le jour au milieu des années 80. Voilà. Donc arrive 1991.
Oui, bon, on peut peut-être alors du coup entrer un petit peu plus dans le détail de la privatisation, et peut-être au travers du cas que tu connais. Alors, cette entreprise ITI, Indian Telephone Industry, qu'est-ce que ça représente en fait en Inde? C'est un grand monopole, ça représente combien de gens?
Voilà, donc étant donné que tout le secteur de l'infrastructure avait été donc confié au secteur public, ça avait été également... Étant donné que l'ensemble du secteur, donc toute l'industrie lourde avait été confiée donc au secteur public, la décision avait également été prise par l'État indien dans les années 50 de confier donc la fabrication des équipements de télécommunications à une entreprise publique qui jouissait d'une situation de monopole, à la fois grâce à un dispositif juridico-légal, ainsi que il y a eu également une interdiction de toute importation de l'étranger. Et cette entreprise vendait tout son équipement à un seul acheteur qui était l'État. Donc à travers le ministère des télécoms. Donc il y avait des relations donc d'intégration verticale donc assez poussées. En ce qui concerne donc ITI, c'est une entreprise qui, en tout cas au début des années 90, employait presque 32 000 personnes. Donc c'était une entreprise très importante, donc située à Bangalore, aujourd'hui plus connue comme la Silicon Valley indienne, mais déjà dans les années dans les années 50 et 60, c'était vraiment une bastion industrielle assez importante, mais donc l'industrie traditionnelle, il y avait plusieurs entreprises publiques, grosses entreprises publiques, dont ITI, donc qui avait son siège à Bangalore, et qui avait également des unités de production un peu partout en Inde. Voilà. Et donc c'est une main-d'œuvre avant tout masculine, voilà, peu qualifiée, ce qui est assez frappant parce que souvent, quand on parle des industries électroniques ou des industries des télécommunications, qui emploie souvent une main-d'œuvre donc féminine, alors que là, on a plutôt une main-d'œuvre masculine qui est liée au dispositif légal qui fait que c'était plus difficile d'employer les femmes la nuit. Mais je crois qu'il y avait également des présuppositions idéologiques comme quoi, vu que ces ouvriers étaient considérés comme une aristocratie du travail, ça ne peut qu'être des hommes et pas des femmes. Voilà. Donc il y avait également des présuppositions idéologiques qui faisaient en sorte qu'il y avait très peu de femmes qui avaient été employées donc, pour fabriquer des téléphones, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est surtout les femmes qui assemblent les téléphones. Voilà. Donc une base importante à Bangalore et des unités de production un peu partout en Inde. Et cette diversification géographique était avant tout dictée par des raisons politiques, c'est-à-dire pour créer des emplois donc dans des zones où il n'y avait aucune industrie. Donc les mises en place des projets industriels étaient très coûteux. Et qui entraînait également des retards. Voilà. Donc, c'était vraiment le cas des cathédrales dans le désert qu'on pouvait constater donc en Italie ou ailleurs. Voilà.
Et du coup, le mouvement de privatisation, j'imagine, va déstabiliser ce grand monopole et cette masse de travailleurs.
Quoi. Tout à fait, voilà. Donc c'était un marché tout à fait captif. Donc vu que ITI donc, vendait l'ensemble de ses équipements à un seul acheteur, donc l'État, l'entreprise même était complètement abstraite de l'ensemble des circuits du marché. Voilà. Et en 1991, donc, le gouvernement autorise les investisseurs étrangers de venir pénétrer le segment des télécoms. Donc on voit arriver Alcatel, on voit arriver toutes les grandes multinationales, Alcatel, Siemens, les entreprises japonaises, Ericsson. On voit arriver donc, toutes ces entreprises. Et la perte de ce marché captif est vraiment, se révèle vraiment catastrophique pour l'entreprise, pour ITI, qui n'était pas du tout préparée. Voilà. Il faut souligner ce point, n'était pas du tout préparée au fait qu'elle allait perdre donc, de son marché captif. Voilà. Le gouvernement n'a pris aucune mesure pour donc, moderniser l'outil de production, n'avait donné aucun... temps donc à l'entreprise pour se préparer donc à ce changement, et du coup l'entreprise se trouve confrontée à une crise très grave et qui perdure encore aujourd'hui, car d'environ 30 000 ouvriers au début des années 1990, aujourd'hui on est à environ 11 000 ouvriers dans les différents sites de production. Voilà.
Oui, c'est important de rappeler que les délocalisations des entreprises européennes ou américaines peuvent aussi détruire de l'emploi dans les pays, des pays non ou en voie d'industrialisation.
Tout à fait, voilà, c'est ce qu'on pense souvent, que voilà, les emplois sont perdus donc, dans les pays occidentaux, mais également la déréglementation entraîne également des pertes d'emplois dans les pays sous-développés également, voilà, tout à fait.
Parce qu'en 1992, en France, c'était l'ouverture du capital de France Télécom. Donc, bon, un processus de privatisation. On se souvient qu'en France, il y a eu un énorme débat, enfin, avec une fracture très claire dans la classe politique. Est-ce que ça a pris cette tournure-là aussi en Inde, d'un vrai débat de société ?
Ta question est vraiment très intéressante parce que ça touche vraiment au fond d'un certain chose. Parce que souvent, on caractérise les réformes indiennes comme un processus graduel. C'est-à-dire, étant donné que c'est un pays démocratique, un pays donc, où les mouvements sociaux sont importants, où les élites dirigeantes sont soucieuses de leur légitimité, donc il fallait donc procéder lentement. Et donc, souvent, on disait qu'un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, on décrivait souvent le processus de réforme de cette manière. manière de réforme par cachette. Et donc, le gouvernement prenait vraiment des gants avant de procéder à des grands changements. Mais c'était sans doute le cas dans un certain nombre de domaines, comme les relations professionnelles, par exemple. On pourrait en parler. Mais en ce qui concerne la déréglementation industrielle, le gouvernement a vraiment ouvert les portes de manière sans discernement à l'arrivée des entreprises étrangères. Alors que je crois que le parallèle à tirer, c'est dans le secteur, les dirigeants indiens étaient beaucoup plus prêts à écouter les entrepreneurs privés, leurs soucis par rapport à l'arrivée en masse du capital étranger. Mais par contre, vis-à-vis du secteur public, il n'y avait pas du tout cette même souci de cette même écoute à leurs problèmes. Sans doute parce que les élites pensaient que le secteur public, quelque part, était peu performant. Donc, du coup... il fallait un électrochoc de cette ampleur pour améliorer la situation. Mais au contraire, ça n'a pas amélioré la situation. Au contraire, la déréglementation a profondément déstabilisé une entreprise comme ITI et a complètement perturbé l'ensemble de la structure du marché dans laquelle elle était insérée. Voilà.
लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं आंसू और सपने दोनों ही अपने
Allez, on est toujours sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel et on continue à parler de la situation industrielle en Inde, enfin plus particulièrement de la situation des télécoms, de l'entreprise publique de télécoms en Inde. Et on parlait avec Dilip de sa privatisation, enfin en tout cas de sa mise en concurrence, l'ouverture du marché à la concurrence. Concrètement, qu'est-ce que ça a comme effet sur en gros le service du téléphone? Est-ce que c'est la promesse libérale est tenue? Tout le monde peut avoir le téléphone du jour au lendemain et pour un tarif défiant toute concurrence?
Voilà. Paradoxalement, je crois qu'il faut différencier entre la situation donc, de cette entreprise qui se trouvait donc, dans un contexte catastrophique à faire des pertes pendant des années et l'ensemble de la situation de l'ensemble du pays. Parce qu'avec donc, la libéralisation, au contraire, la situation, le réseau s'est densifié et les listes d'attente c'est beaucoup réduite. Et pour l'usager final... La libéralisation était vraiment quelque chose de très, très positif. Voilà, il y a eu un bond en avant au niveau de nombre de téléphones, la qualité des services, l'augmentation du réseau, surtout parce qu'il y a eu donc une entrée très importante des investisseurs privés pour donc les fournisseurs de services. Et le bond était fait grâce à la téléphonie mobile, voilà, et pas du tout avec le réseau fixe, mais surtout grâce à la communication mobile. Et aujourd'hui, donc, l'Inde affiche au niveau de nombre de téléphones, affiche une croissance très importante et la situation a connu vraiment une amélioration profonde. Donc, je crois qu'il faut faire une distinction entre donc, la situation de cette entreprise qui est dramatique et la situation de l'ensemble du pays qui a connu donc, une amélioration radicale et tout à fait importante. Voilà.
Et la privatisation concernait d'autres services publics avec les mêmes effets?
Voilà, il n'y a pas eu... Voilà. Donc ça, c'est aussi un fait marquant donc, de ce tournant libéral en Inde. Contrairement aux autres pays à la fois en voie de développement et des pays occidentaux, il n'y a pas eu de privatisation pour une simple raison. Les gouvernements craignaient un mouvement social, donc que les syndicats se mobilisent sur cette question. Et il y avait quelques... Il y avait sans doute... Voilà, il y avait la crainte de problèmes sociaux importants. Donc du coup, le gouvernement... a laissé les situations pourrir, a laissé les entreprises publiques mourir à petit feu au lieu de les privatiser. Voilà, c'est le cas un peu de ITI, donc qui a connu une dénationalisation partielle. Il y a environ 20% de ses parts qui avaient été donc mis sur la bourse, mais l'entreprise reste une entreprise privée. Il y a 80% des parts qui restent donc toujours entre les mains de l'État. Et quelque part, il y a aussi sans doute dans l'esprit des dirigeants, ils savent que même s'il y a eu donc la force de travail a beaucoup diminué ces années, l'État quelque part ne voulait pas avoir des faillites ou des fermetures d'usines trop importantes parce que pour une simple raison, il y a aucun filet de sécurité sociale également en Inde. Donc du coup, quoi faire d'avoir 10 000 ou 20 000 ouvriers plutôt bien organisés sur la rue allait créer quand même des tensions sociales trop importantes. Donc du coup, il y a vraiment un souci donc de paix sociale qui fait que il y a beaucoup d'entreprises publiques restent sous contrôle étatique, voilà. Et c'est vrai également pour tout ce qui concerne les biens publics, voilà, l'électricité, l'eau, toutes ces infrastructures restent encore sous contrôle étatique. Et au contraire, l'État continue à investir, même si par contre peut-être le seul le seul contre-exemple, c'est le secteur de la santé où les entreprises privées sont entrées vraiment sont arrivées de manière très très importante, voilà, et où on constate pas vraiment un désengagement de l'État, mais l'État investit très peu dans les hôpitaux, voilà, c'est plutôt tous les nouveaux hôpitaux sont construits par les capitaux privés, voilà.
et du coup, qui peut se rendre, parce qu'on a toujours un peu l'impression, vu de loin, que la structure sociale de l'Inde est quand même très, très inégalitaire. Quoi. Donc, du coup, qui peut profiter de ces services?
Mais c'est, en effet, donc, on parle à la fois des inégalités régionales en Inde, qui est très importante. Donc, les États, dans certains États qui ont connu donc, une très forte croissance depuis les réformes économiques, les États à la fois qui se trouvent sur l'ouest de l'Inde, voilà, mais qui sont également, sur le plan social, très en retard, et qui, ces États très en avant sur le plan économique ont connu des tensions ethniques très importantes, les émeutes entre hindous et musulmans. Donc, les croissances économiques, quelque part, a également, pas dit créé, mais était accompagné par des tensions sociales assez importantes. Donc il y a à la fois des tensions, des inégalités régionales très importantes qui commencent à se croître, et en effet les inégalités sociales, les inégalités de revenus qui commencent à se montrer, qui commencent à être très importantes. Voilà.
Parce que tout le mouvement syndical qui s'appuyait donc sur les mondes organisés n'a jamais pris la défense des inorganisés, de l'économie informelle, etc. Il n'y a pas vraiment eu de lutte à portée plus générale en Inde.
Non, voilà. Non seulement, donc, ça, c'était quelque part la grande erreur donc, du mouvement syndical, donc, qui avait été souvent mis en avant par beaucoup de gens, que le secteur organisé était vraiment, donc les syndicats du secteur organisé étaient très corporatistes dans leur ensemble de leur approche, et qui sont souciés donc avant tout de leurs propres membres et pas du tout donc du secteur informel. Et par ailleurs, donc s'ils peuvent se mobiliser de façon collective sur certaines questions, sur tout ce qui concerne donc à l'échelle donc de l'industrie, ils peuvent donc se mobiliser que de façon isolée, et là ils ont aucun moyen de résister donc à une pression donc soit patronale ou soit de l'État, voilà. Donc c'est le mouvement syndical. Donc, il y a eu très peu de grèves. Il y a très peu de grèves depuis 1991. Par contre, il y a plus de lock-out que des grèves. Voilà. Plus de jours. Donc, il y a vraiment le patronat est sur l'offensive, alors que le mouvement syndical est très clairement sur la défensive, parce que c'est très clair, comme les dirigeants syndicaux eux-mêmes reconnaissent, que le patronat et l'État aujourd'hui font vraiment cause commune. Voilà.
Et ce mouvement syndical ne s'appuie pas sur des mouvements ou des organisations révolutionnaires, parce qu'on peut lire ci et là bon, qu'il y a des zones qui sont sinon contrôlées, enfin, ou du moins où des partis, notamment maoïstes, occupent un rôle important, ou des partis communistes occupent un rôle important. Il n'y a pas de liaison entre mouvement social et mouvement politique dans ce cadre-là.
C'est le grand clivage entre ville et les milieux ruraux. Voilà. Parce que le mouvement maoïste était toujours donc, implanté dans à la campagne, parce que donc, en partant des vieilles théories maoïstes, que la révolution venait donc, de la campagne, donc du coup, la jonction n'a été jamais faite avec les villes. Donc les mouvements maoïstes aujourd'hui restent donc toujours à la campagne. Donc en effet, il y a les États de l'Est de l'Inde où ils sont relativement puissants, ils contrôlent pas mal de zones. Il y a souvent des attentats contre les forces de répression. Donc voilà, il y a souvent on entend parler des zones troubles où l'État aujourd'hui n'a presque plus de contrôle, voilà. Et ces mouvements, donc ça c'est une première point à souligner. Et l'autre chose, il y a aucune jonction faite entre les ONG et le mouvement syndical et le mouvement syndicaliste, voilà. Sur un plan institutionnel, il peut avoir donc des activistes et des militants qui se rallient, donc qui font cause commune sur certains sujets avec les ONG, qui sont très importants en Inde, hein, les ONG, et qui jouent parfois un rôle dans certaines luttes, un rôle favorable. Par exemple, il y avait tout un mouvement contre les constructions des barrages, par exemple, où les ONG avaient pris le devant et qui avait obligé à la fois la Banque mondiale et le gouvernement indien à reculer, parce que donc, les constructions de ces barrages allaient inonder un certain nombre de je crois presque entre 3000 et 4000 villages, voilà. Et donc là les ONG étaient très puissants, mais par contre souvent les ONG également travaillent souvent dans les milieux ruraux et pas du tout Si, et travaille également dans les villes, mais pas avec le, dans le secteur informel, mais pas avec le secteur organisé. Voilà. Donc il y a beaucoup de cloisonnement entre les mouvements sociaux. Et pour le moment, on a parlé, je crois qu'il y a un sommet de l'attaque qui avait été donc organisé donc à Mumbai il y a 3 ans. Mais tout
un forum mondial, le forum social mondial.
Voilà. Tout à fait, le forum social mondial, voilà. Et mais par contre, tous ces mouvements restent cloisonnés et il y a très peu de ponts entre ces différents mouvements sociaux.
Ouais, alors si on en revient à l'entreprise que tu as étudiée, donc pour reprendre un cas concret, donc tu dis il passe de 30 000 à 10 000 personnes, et là pour le coup, est-ce que ça suscite des réactions de la part des ouvriers? Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été licenciés? Est-ce que
le licenciement est très difficile en Inde, voilà. C'est donc ça, là aussi, on a sur la façade donc les lois pro-ouvriers, donc qui favorisent très fortes, donc qui prennent la défense des ouvriers, voilà. Donc du coup, c'est très difficile pour les entreprises, surtout les grandes entreprises, pour licencier les gens. Donc du coup, ce qu'ils ont fait pour réduire donc leur main d'œuvre excédentaire était de mettre en place un programme de retraite anticipée, voilà, des pré-retraites. Et c'est à cause de ça, donc c'est ce qui explique la baisse de main-d'œuvre très importante, à la fois dans l'entreprise que j'ai étudiée, mais également dans l'ensemble du secteur, dans le secteur privé et dans le secteur public. Et on appelle ça, donc, c'est plutôt des pré-retraites donc volontaires, mais où il y a souvent également de la force et de la coercition qui sont exercées par le patronat, surtout dans les entreprises privées qui poussaient les gens donc, à accepter donc, une indemnité financière pour quitter l'entreprise. Voilà. Donc, mais par contre, il n'y a pas eu de mouvement social fort. C'était comme si le changement était inévitable et les ouvriers étaient plus ou moins résignés au fait qu'ils devaient quitter l'entreprise. Ils se rendaient compte que peut-être quelque part que, voilà, que l'entreprise devait faire face à cette nouvelle situation concurrentielle. Donc pour cela, se débarrasser d'une partie de leur main-d'œuvre. Voilà. Donc il y avait beaucoup de résignation, mais en tout cas, ils partaient avec des sommes relativement importantes, voilà, des sommes d'argent relativement importantes.
Et quand on travaille dans ce que tu appelles le secteur organisé, tu disais que bon là il y avait un certain nombre de garanties, mais on a vraiment un différentiel important de salaire et de droits sociaux, enfin en tout cas de salaire.
Ah oui, c'est là, le secteur organisé, c'est vraiment l'aristocratie du travail, parce qu'ils bénéficient donc des salaires. C'est quoi, l'échelle, c'est presque entre 1 et à 1000 par dans certains cas. L'échelle est énorme, et surtout dans le secteur informel, on n'a aucune protection. On peut être licencié du jour au lendemain. Ils partent avec rien du tout. Voilà. Donc c'est aussi qui explique que pendant un certain temps, dans l'entreprise que j'ai étudiée, les ouvriers étaient très réticents à accepter les programmes de pré-retraite, parce qu'ils savaient que trouver un emploi dans le secteur informel était soit très difficile, soit ça revenait à avoir aucune protection. Voilà.
Et quand les multinationales arrivent en Inde, est-ce qu'elles offrent d'autres conditions de travail aux ouvriers, ou est-ce qu'elles se calent sur les traditions, en tout cas les manières de gérer le personnel?
Ah non, aujourd'hui, en tout cas, les multinationales bénéficient entre guillemets d'un marché du travail assez flexible, en employant donc surtout un main-d'œuvre précaire. Voilà, c'est clair. Ils offrent quelque part très peu d'avantages sociaux à leurs employés, et ils essaient surtout d'avoir des unités relativement restreintes, voilà, pour pouvoir gérer assez facilement donc leur personnel. Voilà.
Ça fait partie de l'économie formelle ou informelle, alors, du coup, ces entreprises privées arrivées après 91?
Ça dépend. Donc, par exemple, dans l'industrie automobile, par exemple, ils sont dans le secteur formel, voilà, parce qu'ils ont au-delà de 100 ouvriers, donc toute usine qui emploie plus de 100 ouvriers est considérée comme faisant partie du secteur donc formel, et où donc les droits de licence ou les garanties où les ouvriers sont garantis d'un certain nombre de avantages sociaux, voilà.
Parce qu'on a vu aussi, alors dernièrement dans la presse, que des projets de multinationales étaient aussi critiqués violemment par une partie de la population, notamment un projet, enfin d'ailleurs c'est pas une multinationale, mais en tout cas d'une grande entreprise, notamment les projets d'implantation de Tata pour la voiture, ce qu'on appelle la voiture du pauvre, qui avait commencé à construire une usine, je ne sais plus dans quelle partie de l'Inde, et puis qui a subi un mouvement de contestation assez fort de la part des milieux paysans, et qui a arrêté la construction de son usine, quoi, du coup. Voilà. Ça, c'est important, ce type de contestation
Tout à fait, voilà. Et là également, donc, ce mouvement a eu lieu donc, surtout dans, donc, à la campagne, voilà. Et donc, il y avait donc, les partis politiques qui ont appuyé leurs demandes, parce qu'il faut savoir que le gouvernement avait prévu donc, de créer des zones économiques spéciales dans un certain nombre d'États où aucune loi, où les ouvriers étaient assurés donc, d'aucune protection. Donc, il y avait vraiment un régime spécial, un peu comme des zones économiques spéciales qui existent en Chine, ailleurs, voilà. Et ce qui a posé problème, c'était plutôt l'expropriation des terres, voilà. C'était donc un mouvement qui était donc mené par les paysans qui se luttaient contre cette expropriation de terres, parce que c'était considéré comme de terres fertiles, voilà, qui avaient donc allaient être utilisées pour des fins industrielles. Et en Inde, il y a également une pénurie étant donné que les réformes agraires n'avaient jamais été poussées très loin. Il y a un très fort attachement donc à la terre, et donc du coup ces projets donc en plus c'est intéressant parce que donc de savoir que ce projet a eu lieu dans un gouvernement dans un état qui est dirigé par un gouvernement marxiste, voilà, et qui a voulu promouvoir une industrialisation assez rapide, voilà, en offrant donc des avantages spéciaux donc à Tata, et qui avait résisté par des paysans qui s'opposaient à la perte de leur terre, voilà.
Et puis alors juste parce que l'émission va se terminer, mais en septembre de cette année, en septembre 2008, on a entendu parler d'une série d'ouvriers qui n'ont pas du tout apprécié qu'un de leurs patrons cherche à fermer l'usine, et ils ont pris une position un peu radicale en termes de lutte des classes et ils l'ont lynché. Est-ce que tu peux nous dire c'est un fait divers qui nous a surpris?
Oui, moi, c'est grâce à Cédric que j'ai eu cette nouvelle, voilà, parce que donc j'avais qui m'a envoyé donc cette dépêche. Je crois qu'une étude assez détaillée montrera d'autres cas de violence de ce genre. Voilà, je crois qu'il y a eu d'autres cas de défenestration et de lynchage des patrons ailleurs. Et ce sera intéressant parce que c'est vrai, parce qu'il y a quand même ces réformes économiques, bon, à apporter donc apporter de la richesse pour la classe moyenne, voilà, mais pour les ouvriers, ça, ils ont vraiment vu leur situation s'appauvrir, et donc qui explique donc ces formes de protestation très violentes et très extrêmes, voilà. Et souvent, il y a également, donc, on entend également parler de fusillades où la police et les forces de répression ouvrent le feu sur les ouvriers qui sont en colère. Donc, ce sera vraiment, je crois, il n'y a pas eu d'études assez détaillées qui étaient faites là-dessus, mais il y a des formes de protestation assez isolées, mais loin d'être, qui sont loin d'être épisodiques. Voilà, c'est ça arrive, c'est souvent donc noyé donc par des success stories qu'on entend sur les entrepreneurs qui font fortune, les milliardaires indiens, mais il y a également quand même une certaine grogne sociale qui existe également dans le milieu urbain, voilà.
Bon, ben voilà, merci beaucoup. L'émission se termine. Donc on recevait ce soir donc Dilip Subramanian qui a eu l'hypothèse de venir alors qu'il n'a rien à vendre, puisque il fait une thèse justement sur ces questions des entreprises publiques de télécom en Inde, mais qui n'a toujours pas été publiée pour l'instant. Elle fait 1600 pages, elle pèse 23 kilos. Donc j'imagine que tu viendras nous en reparler. Lorsque ce sera publié.
Merci à vous.